Le lien entre santé et art peut paraître flou. Mais vous est-il déjà arrivé, en refermant un livre, en sortant d'une salle de ciné, d'un spectacle, devant une peinture, un dessin, une danse, de ressentir une émotion telle que vous aviez envie de changer, commencer ou recommencer quelque chose dans votre vie, de créer même? En ça, je pense que l'art est une thérapie, qu'on soit artiste ou spectateur. En nous mettant face à nos émotions, l'art nous invite à nous questionner sur qui nous sommes, ce que nous voulons, pour nous-mêmes comme en société, et à agir. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai découvert le travail des artistes que nous allons rencontrer ensemble. Des artistes singuliers qui racontent notre monde pluriel et nous invitent à en bouger les codes. Je m'appelle Sophie Labruyère, je suis auteure et réalisatrice, et j'ai le plaisir de prendre les commandes de l'Octopus pour cette série de connexions artistiques. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer Guillaume Desjardins. Guillaume est auteur, réalisateur et fait partie du collectif de vidéastes Les Parasites. Ils sont à l'origine de nombreux courts-métrages, notamment réalisés dans le cadre du 48 heures Film Project. En 2019, ils ont signé la série L'Effondrement sur Canal Plus Décalé. Et récemment, ils ont même fondé une école d'audiovisuel démocratique participative qui s'appelle l'Atelier 7. Basé sur la liberté, l'autogestion et l'auto-formation, en toute parité. Guillaume a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Rouge Vert Bleu, sur laquelle il fait des vidéos de conseils en réalisation à la fois technique et théorique. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans le travail de Guillaume et des Parasites, c'est que leurs créations sont toujours engagées, souvent militantes. Elles dressent les portraits politiques, sociaux, environnementaux de notre société, et si c'est pas toujours glorieux, c'est en tout cas toujours très bien amené, de manière brillante, et ça invite à se questionner. Et c'est en travaillant avec eux sur le JTER, le journal de la Terre, qui est un web magazine écolo, dont je salue tous les copains, que j'ai rencontré Guillaume. Et alors je suis pas du tout surprise qu'il ait accepté cette interview, parce que c'est quelqu'un de très généreux et bienveillant, toujours de bons conseils. Alors je suis d'autant plus contente de partager ce moment avec vous. On s'est donné rendez-vous au bois de Vincennes, au niveau du lac Daumesnil, que je ne connais pas du tout. Mais je suis un petit peu en retard. Et du coup... Oh tiens, je vais me téléporter, tiens.
Sophie ?
Mais
qu'est-ce que tu fais sur ma barque ?
Mais qu'est-ce que tu fais sur une barque ?
Oui, c'est vrai, c'est la bonne question, je sais pas.
Je t'ai vu au loin, je me suis dit, je veux pas être en retard, et voilà, je vais me téléporter. Et...
Ah bah bien joué.
Bah, super.
Je savais pas que ça existait déjà.
Les barques ?
La téléportation.
Eh bah écoute, c'est parti, hein. Je chante.
Il y a des poules d'eau, des canards, des paons. Surtout des canards.
On dirait qu'ils sont isolés du monde. On voit à peine Paris, on l'entend, mais...
Ils sont dans une petite bulle, là.
Ouais.
Ah bon, ils marchent quand même sur du béton pour accéder à l'eau.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici ? C'est un endroit qui est particulier pour toi ou pas du tout ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, j'habite pas très loin et... Et non, je me disais, c'est trop dommage d'aller dans des bureaux ou chez moi ou d'être en intérieur. Je trouvais
ouais.
ça un peu triste. Et au moins, on est en mouvement, quoi.
Ouais, ouais, carrément.
Et on entend les animaux. On a l'impression un peu d'être...
D'être à la campagne.
D'être à la campagne, dans la nature.
Exactement.
Puis comme ça, ça sort un peu du quotidien, quoi.
Exactement. Mais finalement, ça nous rapproche un peu du Sud-Ouest. Puisque c'est aussi diffusé sur Web Radio, qu'on embrasse au passage. Ouais, je me demandais comment, quand les gens te demandent ce que tu fais, comment toi tu te présentes ?
Bah, depuis peu maintenant, je me présente en tant que producteur, auteur, réalisateur.
Ah,
ouais.
T'as une nouvelle corde à ton arc.
Bah, c'est plus prendre conscience de tous les métiers que ça englobe, ma pratique, quoi. C'est plus
ouais.
ça. Et
d'accord.
Je pense que beaucoup pourraient se définir comme ça sur Internet. Beaucoup de vidéastes, créatrices, créateurs, en fait, font tous ces métiers à la fois.
Ouais.
Ils se produisent. Et ils fabriquent, ils écrivent, donc ils se financent, c'est eux-mêmes qui vont chercher les financements, donc finalement ils sont producteurs aussi, quoi.
Ouais. Mmh. Et t'as toujours réalisé avec les parasites ou ça date de quand cette aventure?
Les parasites, ça date de 2013. Ouais. C'est le nom que j'avais donné à notre équipe de 48 heures. En gros, c'est des défis vidéo, tu dois faire un film en 48 heures. Et on s'est dit qu'on allait être les parasites du concours parce qu'on ne le faisait pas pour gagner, on le faisait pour s'amuser, quoi. Et au final, cette motivation a porté ses fruits dans un sens, puisqu'on a été récompensés, quoi. On a eu plusieurs prix du meilleur film pour plusieurs 48 heures différents. Et puis, c'est ça qui a commencé à nourrir la chaîne au début avec les 48 heures.
Trop bien.
Et au fur et à mesure, on a pris en abonné, alors que vraiment, on pensait vraiment pas que nos contenus allaient performer sur Internet, parce qu'on voyait surtout des contenus humoristiques qui performaient, quoi.
Ouais.
Et au final, on a pris en abonné. Après, on a eu un énorme coup de pouce. On avait atteint les 20 ou 30 000 abonnés. Et puis, on a eu un coup de pouce d'un vidéaste nommé Doc7, qui avait 700 000 abonnés, qui a parlé de nous. On a pris 100 000 abonnés d'un coup. Et puis après, ça a continué de monter.
Ah ouais.
Ouais.
C'est à partir de ce succès-là que vous avez eu envie d'être du coup plus engagé, plus militant sur le fond de vos créations? Ou d'une certaine façon, c'est des sujets qui vous ont toujours... Enfin, toi, en tout cas, est-ce que c'est des sujets qui t'ont toujours parlé et tu t'es toujours dit « je vais créer autour de ça »
Non, bah, c'est drôle, c'est que petit, j'ai l'impression de faire partie quand même d'une génération. Depuis petit, on nous dit qu'il va falloir faire attention à la vie sur Terre, à la planète, tout ça.
Ouais.
Et je me souviens, même petit, je m'étais dit plus tard, parce que j'étais dans une famille un peu où on t'encourageait à être entrepreneur et tout, donc je m'étais dit... plus tard, je montrais une entreprise, ça s'appellera Save the World. Tu vois, j'avais écrit Save the World sur un tableau blanc à la maison. Et donc, je pense que, ouais, il y a ça. Enfin, on nous met ça dans le tête donc, quand même depuis qu'on est petit. Mais après, j'avais pas fait le lien. Moi, je faisais des vidéos parce que c'était un jeu pour moi. J'avais pas du tout conscience de l'outil que j'étais en train de me créer. Mais ça, c'est venu peut-être dans un second temps pour moi. Quel sens on donne à nos créations? Pourquoi on crée? Quel impact? Enfin, en vrai, quand on a pris ces 100 000 abonnés-là, ça a tout changé dans le sens... on avait une responsabilité maintenant. C'était plus que nos amis, notre famille, les amis d'amis qui regardaient ce qu'on faisait.
Ouais,
là, on se disait, waouh, ça va être vu par plein de gens. On a une responsabilité dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on dit et tout. Donc ouais, ça change d'un coup. Tu te dis, waouh, on a un super mégaphone, là.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on dit, du coup? Qu'est-ce qu'on raconte? Et finalement, ça a pris sens après, parce que je me suis vachement intéressé à la technique. Et c'est dans un second temps que l'artistique, les histoires et tout sont arrivés, et que j'ai pris conscience que, en fait, la technique n'était qu'au service de ça. Et ouais, c'est là que quand je commençais à me politiser, à prendre conscience que non seulement on avait un énorme travail pour arriver à conserver la vie sur Terre, mais aussi que le monde dans lequel j'ai grandi... que j'ai cru qu'était arrivé à son apogée, était arrivé à son ultime évolution, c'était pas du tout le cas.
Ouais.
Un peu à désillusion, et que c'est là où j'ai commencé, je crois, à me politiser. Et tu te sens impuissant quand tu commences à voir tous les enjeux, les énormes enjeux qui nous entourent. Et puis après, j'ai pris conscience que j'avais pris conscience de tout ça grâce à beaucoup de vidéos aussi sur Internet. Et du coup, je me suis dit, moi aussi, je peux faire des vidéos, moi aussi, je peux contribuer à...
Ouais.
À diffuser des idées, à questionner, tout ça. Donc ça a fait sens à ce moment-là, quoi.
Ouais. T'as ressenti quand ce besoin de raconter des histoires et de les écrire? Et tu te souviens un peu, tu sais de quand ça date?
Moi, je pense que c'est vraiment les 48 heures qui m'ont...
Mais pour aller à un 48 heures vidéo, il faut déjà avoir une appétence...
Oui, mais c'était une envie de faire des vidéos, de s'amuser entre amis. Et c'était pas tant de raconter une histoire. Mais au final, moi, ça m'a fait prendre conscience à quel point l'histoire était importante, parce que tu l'écris, tu le tournes, tu le montes et tu le diffuses. Enfin, t'as le film fini deux jours après, quoi. Et du coup, tu vois très vite à quel point le scénario a un impact sur le film. Enfin, il n'y a que ça, même.
Ouais.
Mais... Beaucoup de gens en école, enfin de ce que j'ai observé, en école de ciné et moi-même, sont beaucoup focalisés sur la technique. On veut faire des belles images. Moi, j'avais envie de faire j'avais envie de créer des ambiances.
Ouais.
Je me rendais pas compte que l'ambiance que tu ressens dans un film, il est majoritairement dû à l'histoire. Et qu'en fait, toute la technique est là pour souligner, pour véhiculer l'histoire, mais c'est pas l'inverse, quoi. C'est pas la technique qui crée l'ambiance vraiment, c'est l'ambiance est au service aussi de, bah, de ton histoire, de ton propos, de ce que tu racontes quoi.
Bien sûr. C'est ce côté responsabilité qui toi t'a donné envie d'y mettre des préoccupations écologiques, politiques, sociales, etc.
Ouais, bah c'est aussi peut-être mon envie de contribuer à créer un monde meilleur, co-créer un monde meilleur.
Ouais. Tu penses que du coup c'est un vrai outil de sensibilisation, de peut-être il y a un rôle un peu éducatif aussi.
Ouais, mais en fait plus je creuse, plus je me rends compte que tout n'est qu'histoire. Enfin, ce qui fait, enfin de ce que j'ai compris, ce qui fait société, c'est les histoires qu'on se raconte en commun et tout. Et enfin, ce qui fait même la spécificité de l'espèce humaine. Je sais pas si d'autres espèces animales ont. On sait aussi, parce qu'on sait qu'il y a des espèces animales qui font aussi société quelque part, mais on serait une des rares espèces à faire société par les histoires qu'on se raconte. Enfin, grâce au langage et tout, quoi. Et du coup, ouais, toutes nos croyances, toutes nos pratiques, notre culture, tout ça, c'est que des histoires qu'on se raconte. Et si on raconte nos histoires, on peut faire changer ça, quoi, petit à petit. On jette depuis peu aussi une initiative portée par le Groupe Ouest, qui est une résidence d'écriture qui accompagne des autrices et des auteurs sur leur long métrage ou leur série ou quoi. Et ils ont monté, enfin, ça a été porté par Antoine Lebos, qui a monté le Story Tank. L'idée, enfin, c'est un groupe de recherche entre scénaristes et chercheurs en sciences dures et sciences sociales. Et l'idée, c'est de. Enfin, ça part du constat. Que clairement on a un rôle à jouer avec les histoires qu'on raconte, que notre société, on le sait depuis longtemps maintenant, se dirige vers une impasse, et que ouais, peut-être que les autrices, les auteurs ont un rôle à jouer, et qu'on se serait fait coloniser un peu par Hollywood, par des méthodes qui nous viennent d'outre-Atlantique, et ouais. Moi j'ai l'impression qu'on était un peu les seuls à s'autoriser à théoriser autant, à trouver des méthodes pour performer, etc. dans les histoires, et qu'au final, à travers leurs méthodes qui ont été éditées en livres et à travers les films du coup qui empruntent ces méthodes en fait et qui sont diffusés, qui sont les films les plus diffusés dans le monde. Et du coup, même si on n'a pas lu ce genre de méthode, on va reproduire ces schémas-là inconsciemment, ouais. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir et que c'est efficace. Ouais. Et du coup, Storytank veut questionner ça et se dire, est-ce qu'on ne peut pas créer d'autres outils et réfléchir à comment raconter d'autres histoires. Et puis, moi, aujourd'hui, je me rends compte aussi un peu que c'est bien de se questionner sur les outils, sur comment raconter, mais je me rends compte qu'on sait déjà très bien raconter. Enfin, les théories, elles fonctionnent. Enfin, je veux dire, des trucs très efficaces. Après, en effet, c'est surtout basé sur le conflit. Donc, on sait que sans conflit, il n'y a pas d'histoire. Enfin, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on observe dans les films, etc. Ouais. Et finalement, en interviewant un griot sénégalais qui a été super en interview, tu te rends compte que, eux, dans leurs histoires, il n'y a pas forcément besoin de conflit pour attraper le spectateur, quoi. Ouais. Et du coup, tu te dis, mais alors, c'est quoi le moteur de l'histoire? C'est quoi le truc qui fait que ça tient et tout? Et il dit, il peut y avoir quand même des obstacles, mais la façon de résoudre ces obstacles n'a pas besoin d'être dans la confrontation, dans le conflit, ou tu vois, ça peut être par les valeurs. Et là, tu te dis, waouh, ouais. Trop intéressant, qu'est-ce que ça veut dire et tout. En fait, il te raconte une histoire pour te faire comprendre ça. Et il te raconte l'histoire de, je pourrais pas te la raconter, mais d'un personnage qui est confronté à des obstacles et qui résout ces obstacles à chaque fois par ses valeurs, par des choses belles, je sais pas comment dire, mais par ses principes et tout. Et en fait, ça n'empêche pas d'avoir des enjeux dans ton histoire, oui. Ça n'empêche pas d'avoir des intrigues, enfin, c'est un peu plein de mots différents pour parler un peu de la même chose, mais pareil, le terme incident déclencheur. On dit que généralement une histoire est lancée, enfin en tout cas la grande intrigue est lancée par un incident déclencheur. Et en fait, on peut aussi avoir d'autres mots. Et je sais qu'au Groupe Ouest, ils utilisent plutôt, on pourrait dire l'élément perturbateur ou alors, un trouble.
Ah, ouais, c'est intéressant.
Tu vois, c'est plus large encore, limite.
Oui, ouais. C'est pas forcément négatif. C'est quelque chose qui vient
troubler.
Déranger un truc établi.
C'est pas forcément un incident, c'est pas forcément... Enfin, tu vois.
C'est pas quelque chose qui explose, qui...
Oui, voilà.
Qui détruit tout.
Même si c'est efficace, hein, au cinéma, mais...
Ça détruit tout,
parce qu'il y a une notion de spectacle aussi. Enfin, on vient beaucoup voir des films ou des histoires pour le spectacle, pour...
Bien sûr. Mais ça, l'histoire en question, on peut l'entendre quelque part ou c'était un intervenant que toi t'avais rencontré?
C'est sur, sur Internet, sur YouTube, Story Tank. C'est Massamba qui s'appelle. Griot sénégalais, je pense que tu tapes Massamba, griot sénégalais ou Story Tank. Tu devrais trouver, il y a une vidéo de plus d'une heure, une interview avec lui. Et c'est hyper émouvant parce que c'est le rôle des griots. De raconter des histoires.
Ouais.
Et il te raconte tout ça, un peu la transmission. Enfin, tu te rends compte que eux, ils sont très conscients que les histoires sont là pour véhiculer du savoir aussi.
Mmh.
Et nous, on en a un peu retenu que l'idée de divertissement, de spectacle, et qu'on se rend pas compte des autres forces que ça peut avoir. Les fonctions un peu... historique des histoires, historique dans le sens autrefois quoi.
Ouais.
Le griot sénégalais disait quoi, c'était là, il y avait pas d'école, enfin on la transmission de savoir se fait vraiment par les histoires qu'on raconte. Et en fait, ça qui est fort, c'est que on pourrait distinguer. Ça c'est Mathieu Taponnier justement, un scénariste et monteur qu'on a interviewé au Story Tank. Qui disait on pourrait voir plusieurs couches à une histoire. Il y a la couche narrative, donc qu'est-ce qui fait qu'on attrape le spectateur. Il y a la couche éducationnelle, enfin transmission, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on raconte, mais même des connaissances imaginaires, enfin même on te fait découvrir un monde, par exemple le Seigneur des Anneaux, enfin tu vois, c'est un monde imaginaire, mais n'empêche qu'on peut te faire découvrir un monde, on peut t'apprendre des choses même sur un monde imaginaire, mais on peut t'apprendre des choses aussi sur je sais pas les coulisses de la politique, enfin tu vois, on peut faire des histoires qui te racontent ça. Et puis il y aurait une troisième couche qui serait la couche lyrique, poétique.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce qu'on célèbre dans son histoire? Et ça, j'ai trouvé, enfin, de nommer ces trois couches, je trouvais ça hyper intéressant. Et limite de se rendre compte que la première couche narrative, a été un peu la seule à être autant théorisée par Hollywood. Et du coup, on s'est très bien accroché au spectateur, ça. Mais on en a oublié que c'était aux limites au service de les deux autres. Ouais. Et le griot sénégalais, un peu, c'est ce qu'il raconte. C'est une fois que tu as capté avec ta narration l'attention du spectateur, hop, tu lui transmets ton savoir. Et du coup, tu peux transmettre à quelqu'un comment planter une graine. Et, tu vois, enfin.
Oui, surtout que les histoires, comme tu dis, elles sont partout, mais elles sont aussi dans la religion. C'est comme
mais
ça qu'on apprend.
Oui,
c'est comme ça qu'on apprend les valeurs quand t'es enfant.
Même l'histoire de ta famille qu'on va te raconter, même à chaque fois qu'on vit quelque chose, on le raconte à quelqu'un. On peut pas lui faire vivre ce qu'on a vécu, donc on raconte, donc on va choisir des éléments, etc. Enfin, tout.
Ouais.
Tout n'est qu'histoire, quoi.
Ouais, tout n'est qu'histoire. Ah, c'est beau. Et ben, on va s'arrêter là. Romain, je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause musicale.
Bah ouais.
Avec LMLM, Doing Your Best.
Useless dreams are a pain, not a purpose. Everybody tried to warn us, but I'll die to give you everything you're waiting for. Silence in the room, but not in our heads. Questions and doubts drown in nonsense. We're not just waiting, we're looking for signs, doing our best. No, we're not. Be around anytime if you wanna do it. Tell me what you wanna feel, just let me know. All around anytime, I just wanna do it. Tell me what your biggest fear is, then let it go. I'll be around anytime if you wanna do it. Tell me what you wanna feel, just let me know. All around anytime, I just wanna do it. Tell me what your biggest fear is, then let it go. Broken, still young, but always exhausted. Feel all the will into do nothing, but I'll wait to give you everything.
thing you're dying for. Hopeless, not in our hearts but in our heads. Questions and doubts lost to madness. We're not just dying, we're looking for help doing our best. No, we're not. I'll be around anytime if you wanna do it. Tell me what you wanna feel, just let me know. All around anytime, I just wanna do it. Tell me what your biggest fear is, then let it go. I'll be around anytime if you wanna do it.
Hop là, ah, cette maîtrise
bon.
Quoi.
Ouais, franchement, t'as fait ça toute ta vie.
Non,
j'ai l'impression que tu connais ce lac par cœur.
Oui, en fait, je fais croire que c'est la première fois pour créer un environnement exceptionnel.
Ouais, voilà.
Pareil, c'est une histoire que je te raconte. Je sais pas si
c'est ce que
j'ai vécu.
C'est ça. En fait, tu me mens depuis le début.
Mais d'ailleurs, ouais, avec Jérémy, on réfléchit beaucoup. Jérémy Bernard, avec qui je travaille beaucoup. On réfléchit vachement à tout ça. Et même, du coup, au mensonge. Parce que le mensonge est un outil narratif hyper utilisé au cinéma et tout. Et finalement, même dans nos sociétés, enfin, même dans les histoires qui nous entourent, on est entouré de mensonges. Et du coup, moi, j'ai grandi, comme je disais, je crois, tout à l'heure, dans un monde que je pensais arriver à son apogée. Enfin, ce qu'on nous apprend à l'école, quoi.
Ouais.
Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris. C'est-à-dire... on est en démocratie, il y a l'Europe qui fait qu'il n'y a plus de guerre. Enfin, ça y est, on a atteint le summum de l'évolution.
On a pris le meilleur, on a tout résolu et maintenant c'est bon, on a les codes pour que ça fonctionne.
Maintenant, on peut vivre et il n'y a qu'une voie, c'est le progrès. Limite, moi, je croyais petit qu'on allait vivre éternellement avec la vitesse que la médecine évolue. Alors, peut-être certains connaîtront ça, je ne pense pas à l'éternité, mais ça sera peut-être réservé à une élite. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que j'y ai cru à ce monde... égalité, fraternité, j'ai cru. Et puis le jour où tu te réveilles à ça et tu te rends compte que c'est faux, bah est-ce que finalement qu'on m'ait raconté cette histoire, c'est pas ça qui fait que je continue d'y croire et de me dire que c'est possible?
Oui, d'une certaine façon, ça peut t'aider à le vouloir et donc faire en sorte que ça existe un jour.
Ouais, parce que si t'as connu, si on t'a éduqué, on t'a dit l'homme est un loup pour l'homme, c'est la jungle, il faut se battre dans la vie, c'est comme ça et tout. Est-ce que ça les aide à avoir envie de se battre pour un monde meilleur? Parce qu'il faut y croire avant de se battre, tu vois.
Ouais.
Je sais pas. Bah, du coup, de l'importance des histoires, c'est là où je veux en venir, quoi. Qu'est-ce qu'on se raconte collectivement pour faire société et pour se dessiner ensemble un avenir plus durable, quoi.
Oui, meilleur, plus beau.
Ouais.
Un avenir, quoi.
Juste un avenir, ce serait bien déjà. Ah non, mais ça fait flipper.
Ouais.
Enfin, j'ai l'impression que ce qui fait divergence, c'est vraiment la foi en l'humanité, quoi. C'est est-ce qu'on croit que l'humanité est mauvaise et ne mérite pas mieux. Et du coup, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de déçus de l'humain.
Ouais.
De par... Mais c'est ça que moi, je me dis, on est déçus de l'humain parce que les règles de notre société font que... qu'on est encouragé à ne pas être dans l'entraide.
Ouais,
à ne pas
sûr.
Faire... dans la compétition, quoi.
Oui, ce serait considérer que l'humain est comme ça et c'est tout. Enfin, il est fondamentalement ça.
Mauvais, il est fondamentalement égoïste. C'est dans sa nature. Mais est-ce que vraiment il y a une nature humaine? Et c'est là où on a peut-être des histoires à aller chercher, des histoires vraies à aller chercher dans des sociétés reculées ou quoi, qui ont peut-être eu d'autres modèles. Et on va se rendre compte que limite on pourrait se dire, ah mais il y a une seconde nature humaine alors. Il y a des gens qui n'ont pas du tout ce trait égoïste.
Ah bah ça c'est certain. Je pense qu'effectivement il y a des sociétés qui effectivement n'ont pas du tout ce rapport-là, ni à la nature ni à leur propre humanité. Et c'est vrai qu'on est assez mauvais pour prendre exemple sur les personnes qui font bien. On ne sait pas trop faire. Il y a un truc d'ego de moi je fais, moi je fais bien.
Arrogante.
Ouais, c'est vrai.
On pense qu'on a trouvé. Enfin, qu'on est les meilleurs, quoi.
Ouais.
L'Occident et tout, on est les meilleurs.
Ouais.
On a la médecine, on a la démocratie, on a tout ça.
Et ce qui t'inspire en tant que créateur, est-ce que c'est aussi ce qui t'émeut en tant que spectateur?
Ah ouais, moi je sais que maintenant j'essaye de faire les films que j'aimerais voir moi en tant que spectateur. Là, j'ai besoin d'espoir et du coup... J'essaye d'écrire et on essaye d'écrire parce que j'écris pas tout seul un film qui peut nous donner espoir.
Ouais.
Ouais. Ouais. Parce qu'après l'effondrement, qui c'est un truc très très pessimiste quand même, très noir, même si.
Qui posait un cadre.
On a ça aussi de se dire il faut qu'on se donne une claque. Parce qu'il y a aussi cette idée que les histoires qu'on se raconte, c'est des vies par procuration qu'on se donne. Et que c'est intéressant de se faire vivre des choses. C'est pour ça que c'est intéressant d'explorer le pire aussi en récit. Parce que comme ça, on l'aura vécu, on aura vu des personnages y réagir, on en tirera des leçons, nous, en tant qu'humains.
C'est une façon de se projeter, en fait, dans un possible.
Ouais, de voir des réactions, de voir ce que ça entraîne. Et peut-être que ça nous prépare, ouais. Mmh. Donc nous, c'était un peu l'idée, on s'est dit, allez, faisons-nous vivre cette claque avant qu'elle arrive.
Ouais.
Comme ça, peut-être qu'on en tirera un peu des leçons.
Mmh. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un bon point de départ, je trouve, d'avoir envie de réaliser ce qu'on aimerait voir.
Ouais.
Parce que ça veut dire que ça nous manque.
Bah ouais, ouais.
Que ça n'existe pas et donc qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Et toi, en tant que, du coup, auteur, réalisateur, producteur,
ouais.
Est-ce que tu te dis comme militant et engagé?
Bah oui. Pas partisan, engagé, ouais.
Et t'es plus, du coup... militant engagé ou auteur-réalisateur? Est-ce que tu fais
Pourquoi édition? Pourquoi il faut choisir?
Ouais.
Ah non, mais moi, j'aimerais, c'est pour ça que je raconte ça beaucoup, que beaucoup plus d'autrices-auteurs prennent conscience de leur responsabilité, de leur rôle à jouer. Parce qu'on est quand même beaucoup à raconter des histoires dans cette société. Alors après, on est contraint aussi par les logiques économiques, par ceux qui choisissent ce qui va se faire ou pas, ce qui sera financé ou pas. Et du coup, il faut arriver à se battre aussi à l'intérieur de ça. Mais ouais, de prendre conscience qu'on a une responsabilité. On n'est pas juste des femmes et hommes de spectacle.
Mmh.
On est des philosophes.
Ouais, ouais.
Enfin, je sais pas comment dire, mais... C'était la réflexion que je m'étais faite, c'est quand on écrit, en fait, on passe notre temps à parler.
Ouais.
Et on passe notre temps à philosopher. Enfin, on a ce luxe-là d'avoir du temps, nous, pour discuter. Parler, se poser mille questions, prendre du recul, machin et tout. Et c'est un luxe, quoi, parce que la plupart des jobs te permettent pas de libérer autant de temps pour...
Ouais, non mais c'est vrai.
Et du coup, on a quelque part ce devoir d'essayer de transmettre, ou au moins de questionner, au moins de donner de nouvelles visions, enfin... Et il y en a pas une à donner, il y en a mille, et c'est pour ça qu'on est plein, c'est bien. Et de s'instruire. Parce qu'on se rend compte aussi que... On peut se reposer sur les histoires qu'on connaît et on les répète à l'infini et c'est ce qu'on voit, quoi. Les histoires qu'on voit aujourd'hui, ce ne sont que des remakes, c'est toujours la même chose.
Ouais.
Et parce que ça rassure aussi. Ça rassure, on dit que ça marche, c'est efficace, ça va trouver son audience, etc. Et c'est là où je pense qu'on a un devoir aussi de s'ouvrir à d'autres choses. Après, il y a des autrices et auteurs qui ont des parcours de vie et tout qui fait qu'ils ont des histoires à raconter déjà. Et ça, c'est ceux qu'il faut écouter en priorité. Et puis ceux qui n'ont jamais souffert dans leur vie, ceux qui du coup ne remettent en rien en question, ils vont avoir des histoires un peu plus vides pour moi, où ils vont juste répéter ce qu'on a déjà entendu mille fois, et ça va être, enfin pour moi, ce sera inintéressant dans l'objectif qu'on est en train de décrire là.
Ah, bien sûr.
Et du coup, moi je considère que je fais partie de ces gens, privilégiés, épargnés, tout ça, donc... Enfin, on s'est beaucoup posé la question aussi de la légitimité. Enfin, qui est légitime de parler de tel sujet ou pas? Même ça, c'est un problème. Enfin, ce mégaphone, il est accessible qu'aux privilégiés aussi. Du coup, on n'entend que les histoires de ces privilégiés. On parle de male gaze et tout, qui parle de bourgeois gaze. En fait, ce qui est véhiculé, les histoires qui sont véhiculées en masse, c'est celles de l'idéologie dominante, enfin des privilégiés de ce monde. Et Internet a fait un peu espérer que qu'on allait avoir d'autres récits plus divers qui viennent de tout le monde. Ouais. Finalement, on est passé d'une transmission des histoires très horizontale où tout le monde se racontait les histoires, tout le monde se transmettait le savoir, les histoires se répétaient, c'était l'oralité qui dominait, quoi.
Ouais.
Et finalement, même ça a été accaparé par une élite.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les histoires qu'on se raconte, bah, c'est la télé qu'on allume le soir, c'est Internet, c'est un nombre restreint de personnes. Enfin, est-ce que vraiment ça a existé? On ne sait pas, mais moi j'en sais rien. Je suis pas historien ni anthropologue, mais est-ce que vraiment tout le monde se racontait les histoires, tout le monde se transmettait les histoires avant? Et si oui, alors on a vraiment perdu quelque chose avec la sophistication, en fait.
Ouais.
Tu te rends compte que le cinéma, c'est quand même l'art le plus sophistiqué, le moins accessible au monde, même si on a des outils qui le rendent de plus en plus accessible.
Et pourtant, c'est né. Pourtant, c'est hyper populaire à la base. C'est né dans les fêtes foraines.
Mais pour réceptionner les histoires, oui.
Oui, mais pour les faire...
Pour
ouais.
les écrire, qui les écrit alors
ouais. Ouais,
ça devient vrai. Un tout petit nombre
ouais.
de privilégiés.
C'est ça.
Et c'est leur récit qu'on entend en boucle. C'est et même la
que...
vision de la souffrance, des inégalités et tout, est donnée par ces privilégiés.
Ouais.
Du coup, il y a un problème là.
Enfin,
il nous faut d'autres histoires, quoi.
Ou peut-être que le rôle de nous, créateurs privilégiés, qui avons la pellicule, justement, c'est d'aller donner la parole à ceux qui n'en ont pas, quoi.
Ouais.
C'est
donc
ça.
Pas moi. Donc ouais. Il faut que tu ailles ailleurs, Sophie.
Salut, je vais plonger.
Je saute à l'eau. Ah. Je pense ouais, qu'on a besoin de remise en question.
Ouais. Enfin,
on le sait. Hein. Qu'on aurait besoin de tout remettre en question et de façon urgente, quoi.
Ouais. Est-ce que tu as beaucoup de retours de gens qui regardent tes vidéos? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu prêtes attention?
Je regarde les commentaires quand même. Quand on a pu faire les projections de nos courts-métrages ou de l'effondrement, c'est trop bien d'avoir... On fait quand même des films pour qu'ils soient vus. Enfin, moi, j'en ai... Justement, parce qu'il y a cette conscience aussi que... On a un rôle à jouer, on veut jouer un rôle dans la société. On a envie que ce soit vu par le plus grand nombre. Donc, on fait pas... Enfin, moi, je fais pas... J'ignore pas le spectacle non plus. Enfin, et moi-même, en tant que spectateur, je veux voir du spectacle. Mais je veux que ça soit un moyen de m'amener à autre chose. Enfin,
ouais.
De me faire réfléchir, de me donner des nouvelles visions, etc.
Ouais. En tant que créateur, enfin, quand tu crées, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, en tant que personne? Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier? Qu'est-ce que ça t'apporte?
C'est une addiction, la création, je trouve.
Ouais.
Plus tu crées, plus t'as envie de créer, plus tout le reste, enfin, il y a plus que ça qui a du sens, quoi, de créer, de construire quelque chose et tout. Je sais que c'est une vraie addiction, mais c'est un vrai plaisir et tout, fabriquer des trucs. Mais je pense dans tous les domaines, enfin, je pense tous ceux qui bricolent, qui font du design, qui font, enfin, je sais pas, tous les métiers de création, c'est hyper satisfaisant, quoi,
ouais.
Parce qu'il y a un truc concret à la fin qui existe. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, quand je parle un peu autour de moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans des métiers qui n'ont pas le résultat de ce qu'ils fabriquent. Ils fabriquent pas grand-chose, ou ils manipulent des chiffres, ou...
Ils participent à quelque chose, mais sans voir quoi.
Ouais, sans voir le fruit de ce qu'ils font. Ou alors même, ils savent que le fruit de ce qu'ils font, ils sont pas en accord avec, et là, c'est encore plus compliqué. Mais...
Ouais.
Mais ouais, je suis privilégié là-dedans aussi, de pouvoir faire un métier qui a du sens pour moi et que j'aime.
Ouais. Bah, du coup, on en vient un petit peu à cette grande question à laquelle on a déjà partiellement répondu. Mais pour toi, ça sert à quoi l'art? Est-ce que tu as l'impression que ça a un rôle particulier dans notre société?
Ah bah oui. J'ai l'impression que ça sert à prendre du recul, ça sert à se questionner, ça sert à partager nos visions, ça sert à faire société, du coup.
Ouais.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres arts qui te...
Bah, la musique.
T'es neuve. Ouais.
Ouais.
C'est vrai que finalement, dans la vidéo, dans le cinéma, c'est plein de plusieurs arts ensemble.
Bah ouais, ça englobe
tout.
Il y a
ça. Ouais.
C'est là où c'est l'art le plus sophistiqué, c'est le moyen de transmettre les histoires le plus sophistiqué, du coup le moins accessible et le plus élitiste.
Ouais.
Mais j'aurais envie de de changer ma définition du mot art et que ce soit pas juste un truc d'élite, mais justement un truc très populaire, quoi.
Ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, il est un peu galvaudé, quoi. Il y a quelque chose de très prétentieux à se dire artiste,
ouais.
Par
ouais,
exemple.
Ouais, ça aussi, ouais. Alors que ça devrait pas, on est tous, en tant qu'humains, on est tous des artistes.
Ouais.
Et même, c'est triste, enfin, moi, quand j'entends des gens qui me disent, mais... ah ouais, mais moi, je suis pas un artiste, ou moi, je saurais pas créer, ou je... Enfin, mais si.
Ouais, ça, je suis d'accord.
Enfin, j'ai l'impression que c'est juste qu'on s'autorise pas. Tout le monde a des idées, mais juste on les décrédibilise nous-mêmes, on les assassine nous-mêmes avant même qu'elles existent. Et c'est juste que certains et certaines se sentent légitimes pour les diffuser, c'est tout. Hein.
Ouais.
Alors qu'on peut avoir zéro technique et faire une œuvre.
Oui, tout à fait.
Enfin, je pense, quoi. C'est pas ça qui définit la qualité d'une œuvre, pour moi.
Ouais. Non, c'est vrai.
C'est plutôt la vision, le propos, le machin. Alors après, en effet, d'avoir la technique peut aider à transmettre au mieux ce qu'on a envie. Et du coup, c'est une force d'être...
C'est ça. Mais comme tu dis, c'est au service de l'idée et de l'histoire.
De l'histoire, ouais.
C'est que voilà, c'est qu'après on devient des théoriciens et des techniciens,
ouais.
Mais qu'à la base on est tous artistes parce qu'on a tous des valeurs et des histoires à transmettre.
Tous des choses à raconter.
Ouais. C'est beau.
C'est beau. Hein.
Si tu voulais générer un mouvement ou un changement ou quelque chose. Dans la vie de quelqu'un, si quelqu'un voit une de tes vidéos et décide de changer quelque chose ou de faire quelque chose,
ouais.
Dans l'absolu, t'aimerais que ce soit quoi? Quel mouvement tu voudrais voir?
Je pense que j'ai un peu abandonné l'idée de modifier le comportement de façon très précise, mais plus si la vision ou l'histoire qui est portée par l'œuvre fait que la spectatrice, le spectateur se questionne. C'est déjà réussi, quoi. Ouais. Après, c'est génial. Par exemple, tu vois, la bouche critique, on a fait un documentaire... bon, je spoil, c'est un faux documentaire qui traite de la cause animale. Et suite à ça, il y a vraiment des gens... pour le coup, c'est vraiment... contrairement, on va dire, aux documentaires ou aux vidéos qui peuvent parler de la cause animale, nous, on le fait par l'absurde total.
Oui.
Donc, c'est un peu différent. On peut attraper des gens qui n'avaient pas envie de voir un documentaire qui veut sensibiliser à la cause animale. Et on a eu des messages derrière de gens qui nous ont dit avoir changé leur comportement. On a dit, je suis devenu végétarien suite à votre documentaire. Et là, tu te dis, ah ouais, on a un impact. Donc, clairement, s'il y avait peut-être un geste, pas une action... qui est une non-action, du coup, puisque c'est arrêter de consommer quelque chose, qui est la plus facile des actions à faire, en plus, et qui a un impact énorme à échelle individuelle, mais quand même, peut-être ça serait ça, ouais. Mais ça suffit pas, hein, évidemment.
Ouais.
Mais je trouve que c'est un petit geste qui, pourtant, a beaucoup d'impact.
Carrément. Bah en tout cas, merci beaucoup pour ce moment parce que c'était vraiment trop chouette.
Sophie. C'était sympa ce petit tour en barque.
Mais ouais, c'est trop bien.
Toujours plaisir de parler de tout ça.
Bah oui.
D'essayer de transmettre les réflexions qu'on a, même si elles sont pas forcément complètement abouties toutes.
Ouais.
Si ça peut inspirer.
C'est ça.
Des gens.